Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le désastre pour les vignes, arbres fruitiers, céréales. La vague de gel a fait d'énormes dégâts dans les cultures du nord au sud du pays. Au moins 50% de pertes pour les vignes de Bourgogne et de la vallée du Rhône. Nous serons sur place. Les moins de 55 ans déjà vaccinés avec une première dose d'AstraZeneca se verront proposer un vaccin différent pour la deuxième dose. Décision des autorités de santé. Contamination nette baisse en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Les dernières restrictions font leur effet, mais pas encore sur les entrées en réanimation. Animation au plus haut. L'Algérie fait annuler la visite que Jean Castex devait effectuer ce week-end en jugeant que la délégation venant de Paris n'était pas assez prestigieuse. Invité exceptionnel d'Europe Midi, Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, vient de publier le dialogue imaginaire entre les deux principaux responsables de la déportation des Juifs de France, Pierre Laval et René Bousquet, théâtre, histoire et justice. Robert Badinter avec nous dans un quart d'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est l'une des pires catastrophes depuis des décennies pour l'agriculture française. La vague de gel qui vient de couvrir le pays a fauché en pleine floraison des centaines d'hectares de vignes, d'arbres fruitiers, de céréales. Les viticulteurs sont particulièrement accablés. Jean-Luc Bougeon, vous nous appelez depuis l'une des plus prestigieuses appellations de la vallée du Rhône, la Côte-Rôtie.
Oui, le célèbre vignoble situé au sud de Lyon est ce matin complètement dévasté. Alors ce ne sont pas les images terribles de feuilles hachées menues qu'on peut voir après un orage de grêle l'été. Hein. C'est cette fois beaucoup moins spectaculaire parce que la végétation démarrait à peine. Mais c'est tout aussi grave, voire davantage, explique Mickaël Gerin, 13 hectares en Côte-Rôtie et patron de l'appellation.
On voit très bien sur le premier cep qui est devant nous, les deux bourgeons qui avaient éclos il y a quelques jours, il y a 10 jours, sont complètement grillés. Et là on voit que le deuxième cep c'est la même chose, le troisième, le quatrième, tout le rang. Peut-être au bout on aperçoit un bourgeon qui a été sauvé, quelques feuilles vertes, mais le reste, c'est pour ça qu'on estime à 80 voire 100% de pertes sur l'appellation Côte-Rôtie. C'est absolument dingue, on n'a jamais connu ça depuis 1938. Autant de pertes en une seule fois, en une seule nuit. À partir de minuit et demi, une heure, il a commencé à faire moins et demi et c'est descendu jusqu'à moins 3 sur le vignoble. Ce qu'on appelle un peu des gelées noires, on ne voyait rien au sol, il n'y avait pas de gelée blanche, mais un froid tellement intense.
Alors ici, très ponte, installer des bougies, hein, tout simplement, parce que le vignoble ne s'y prête pas, les pentes sont très raides, parfois jusqu'à 60%, et donc les bougies ne tiennent pas debout. Malgré tout, Stéphane Augier a réussi à le faire sur 3 de ses parcelles, mais il est une exception.
J'ai allumé à 4h, à peu près à 4h du matin, et on les a éteints à 8h30, bon, sachant que le pic c'était plutôt autour de 6h30, 7h. Je pense que les parcelles où on a mis les bougies, on a pu quand même sauver vraiment la récolte, oui. Psychologiquement, ça fait du bien, je dirais. Surtout que c'est nos meilleures parcelles. Mais ouais, un hectare sur 13, bon, ça ne résout pas le problème. Hein.
Voilà, donc on peut déjà dire que le millésime 2021 sera très faible en quantité. Et maintenant, la crainte, c'est une ou deux autres nuits de gel annoncées pour la semaine prochaine et qui pourraient avoir raison du peu de bourgeons qui restent.
Jean-Luc Bougeon au sud de Lyon, dans la vallée du Rhône, phénomène national qui dépasse tous les précédents gels tardifs. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Ils font remonter à 1956 pour avoir des températures de gel aussi fortes. Parmi les régions qui sont moins touchées, il y a l'Alsace, et les Charentes, mais c'est assez exceptionnel que l'ensemble de la France soit touchée. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Occitanie, Gironde, 35% de pertes. Et dans certains territoires, c'est 100% de pertes. Tout est détruit pour certains viticulteurs et arboriculteurs. C'est dramatique parce que c'est la récolte de l'année qui est fichue. Pour les producteurs de betteraves, ils vont essayer de ressemer, idem pour le colza. Mais quand il s'agit d'arbres fruitiers ou de vignes, il n'y a rien à faire. Et s'il y a moins de fruits, il y a un risque effectivement que les prix soient plus élevés. Donc la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut vraiment que le gouvernement prenne la mesure. Le fonds de calamité indemnise, mais pas tout, jamais tout. Et dans le meilleur des cas, ça met 4 mois pour arriver sur les exploitations. Donc il faut aller très vite pour les expertises et la remontée des données chiffrées des pertes.
Christiane Lambert avec Laura Taouchanoff. Deuxième titre de l'actualité ce matin, le vaccin et le sort des moins de 55 ans déjà vaccinés avec une première dose d'AstraZeneca. Ils sont plus de 530 000 et ils se verront proposer un vaccin différent pour la deuxième dose. Décision des autorités de santé, Anne Le Gall.
Voilà, il n'était pas question de se passer d'une deuxième injection pour les moins de 55 ans car l'efficacité vaccinale diminue très vite avec une seule dose. En recommandant le rappel avec un vaccin à ARN messager, la HAS indique qu'elle fait le choix de la sécurité. Il s'agit d'un schéma de vaccination mixte, explique le professeur Elisabeth Bouvet, avec deux vaccins différents qui provoquent le même type de réponse immunitaire.
Dans les deux cas, l'injection de vaccin va stimuler la fabrication de la protéine spike et donc faire réagir le système immunitaire. Et donc là, l'ARN va jouer comme un booster, c'est-à-dire c'est déjà un rappel de vaccination. Il ne sera très vraisemblablement pas nécessaire, sauf peut-être dans des cas particuliers, de faire une dose supplémentaire d'ARN.
La vaccination mixte n'entraînera donc pas plus d'effets secondaires, indique la Haute Autorité de Santé. En revanche, il faudra attendre quelques semaines pour avoir des données précises sur son efficacité. Les experts sont confiants car ce type de combinaison a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le VIH ou l'hépatite B. Et pour les plus de 55 ans, rien ne change. Le rappel se fera avec de l'AstraZeneca, 3 mois après la première injection.
Anne Le Gall, Emmanuel Macron a revêtu Charlotte et blouse blanche pour visiter ce matin l'usine du groupe Delpharm en Eure-et-Loire qui vient de commencer à mettre en flacon le vaccin de Pfizer-BioNTech.
4 sites en France vont produire. Celui-ci est le premier, mais on va continuer de monter dans les prochaines semaines. Ce qui fait que nous produirons sur notre sol en 2021, 250 millions de doses de vaccins pour la France et l'Europe. Et puis on aura besoin de vaccins de deuxième génération qui permettront aussi de répondre aux variants qui ne manqueront pas d'arriver. Et donc là-dessus, la recherche française continue et nous l'accompagnons. Et il y a plusieurs pistes de vaccins de deuxième génération, en particulier le VRI et plusieurs autres, où là aussi des solutions françaises existent, que nous accompagnons et que nous continuerons d'accompagner en recherche et en production.
Emmanuel Macron sur le terrain au moment où la France vient de franchir le cap des 10 millions de vaccinés avec une première dose. Hier, journée record avec près de 430 000 injections réalisées.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Et pour l'épidémie, nous verrons dans un instant que les contaminations baissent nettement en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Dernier point épidémiologique ce matin de Santé publique France, avec Victor Delande, des données encourageantes dans deux des régions les plus contaminées.
Oui, au niveau national, les indicateurs épidémiologiques se maintiennent à un niveau très élevé, mais quand on regarde la circulation du virus dans les Hauts-de-France et en Île-de-France, la cassure est très nette sur les courbes. Le taux d'incidence a baissé très significativement dans tous les départements franciliens. Prenez la Seine-Saint-Denis, 665 cas pour 100 000 habitants. Alors, c'est encore beaucoup, mais il y en avait plus de 800 il y a à peine 10 jours. Même tendance dans le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, dans l'Essonne, à Paris, dans le Nord également et le Nord-Pas-de-Calais. Une baisse qui pourrait correspondre aux effets bénéfiques des mesures restrictives prises dans ces régions dès le 20 mars dernier.
En revanche, la vague continue de monter dans les hôpitaux où de nouveaux lits de réanimation sont créés chaque jour.
Oui, déjà plus de 5 700 patients en réanimation dans tout le pays. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré ce matin que 50 lits étaient ouverts en moyenne chaque jour pour répondre à la demande. Entre 30 et 40 personnes admises quotidiennement en réanimation, ce qui permet donc de garder un peu de marge. Au total, il y aurait environ 8 000 lits aujourd'hui de réanimation en France, contre 5 000 avant le début de la crise sanitaire l'année dernière. Pour arriver à ce chiffre, il a fallu transformer des lits de soins continus en lits de réanimation, en les équipant notamment de respirateurs artificiels et de systèmes de surveillance plus poussés. Il faut aussi plus d'infirmières pour veiller en permanence ces patients très graves. Mais pour passer à 10 000, comme l'a promis Emmanuel Macron, il faudra aller encore plus loin, transformer des lits de médecine classique en lits de réanimation. Et l'étape d'après, l'ultime, c'est la création d'unités de réanimation dans des structures où il n'y a jamais de soins. Ainsi, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris vient juste de transformer son self en service de réanimation. 40 lits tout équipés qui ne reçoivent pas encore de malades et qui ne serviront qu'en dernier recours si vraiment les autres services débordent.
Il n'y a plus de restaurant,
il y a des lits de réanimation à la place.
À la place, à la Pitié-Salpêtrière. Merci Victor Delande. Comme prévu, le débat sur l'euthanasie à l'Assemblée a tourné court. Discussion arrêtée peu après minuit, comme il est de règle pour les niches parlementaires. Malgré un large soutien des députés présents, la proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie n'a pu être votée à cause de l'obstruction d'une poignée d'élus LR. Et le gouvernement ne semble pas vouloir reprendre ce texte à son intention. La relance du train de nuit Paris-Nice, prévue le 16 avril, est reportée, puisqu'il est interdit de se déplacer à plus de 10 km de son domicile. Ce sera donc au mieux en mai. Nouveau coup de froid dans les relations franco-algériennes avec l'annulation hier soir en dernière minute de la visite de Jean Castex prévue ce dimanche à Alger, officiellement à cause de la crise sanitaire, en réalité Jean-Rémy Bodo, parce que les Algériens trouvaient que la délégation française n'était pas à la hauteur.
Oui, Patrick, c'est un épisode de plus dans la diplomatie compliquée, voire contrariée entre Paris et Alger. L'Algérie exigeait ce week-end la présence de 8 ministres français. Impossible à cause du Covid, a répondu la France. La délégation, ministre, conseiller, sécurité, tout ça, ça aurait fait trop de monde. Matignon a proposé de venir avec un format plus restreint. Quelques ministres importants, dont, pas des moindres, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, mais pas suffisant donc pour Alger. Ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose, plaide l'entourage de Jean Castex. À Paris, on minimise l'incident diplomatique, on met en avant le réchauffement continu des relations entre les deux pays. La France s'est récemment lancée dans un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie avec le rapport Stora. Elle a ouvert ses archives, mais le ressentiment reste parfois vif, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Pourtant, preuve que les ponts ne sont pas totalement coupés. Hier, en fait, le chef d'état-major d'Emmanuel Macron, le général Lecointre, était à Alger pour rencontrer ses homologues. Là encore, les autorités algériennes ont eu des exigences, notamment que la France réhabilite ses anciens sites nucléaires au Sahara.
Merci Jean-Rémy Baudot. Un tout petit peu de musique avant d'entendre chanter Anissa, le nouveau single de Clara Luciani, de retour 3 ans après Sainte Victoire. Son premier album vendu à 300 000 exemplaires, 2 victoires de la musique plus tard, elle sort Cœur, son deuxième album. En juin, il sortira en juin, et elle vient d'en dévoiler un extrait, le reste.
Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Le reste, Clara Luciani, qui sera l'invitée de l'amie Émilie Mazoyer ce soir sur Europe 1, 20h, 22h pour musique. Le temps, Anissa Aladi, avec la hausse des températures, la pluie de retour.
Bah voilà, heureusement que j'ai pas chanté parce que vous auriez tout mis sur le compte de ma voix, Patrick, effectivement. De la Gironde jusqu'au Grand Est, en passant par le Massif Central, le Centre Val-de-Loire. Les averses sont de retour cet après-midi. En fait, c'est sur le Nord-Ouest, hein, la Bretagne et les Pays de la Loire que le temps est le plus couvert, avec là aussi pas mal de pluie. Et puis dans le sud, sur les Cévennes et le sud du Massif Central, nous avons aussi un ciel couvert avec pas mal d'averses. Le vent d'Otan et le vent du sud soufflent sur toute la moitié sud du pays. Alors, les températures dans ce contexte, eh bien, elles remontent avec 13 degrés à Brest, 14 à Lille, 18 degrés à Paris, 20 à Nevers et 21 à Bordeaux. Ah si, on a une petite maximale, tiens, 22 à Agen.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Robert Van Inter a conjugué 3 de ses passions, l'histoire, la justice et le théâtre. Dans la première des pièces que publie l'ancien garde des Sceaux, il imagine la rencontre et le dialogue entre les 2 principaux responsables de la déportation des Juifs de France, Pierre Laval et René Bousquet. Le premier sera fusillé le lendemain, le second acquitté. Robert Van Inter, invité d'Europe Midi dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Notre invité est donc un jeune auteur dramatique de 93 ans qui publie 3 de ses pièces qui mêlent histoire et fiction. Bonjour Robert Van Inter.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Cellule 107, nous sommes dans la prison de Fresnes en octobre 45 avec 2 prisonniers, Pierre Laval, symbole de la collaboration, l'homme le plus détesté de France qui a dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Face à lui, René Bousquet, le préfet de police, l'homme de la rafle du Veldiv. Le premier doit être fusillé le lendemain, le second restera impuni, acquitté pour service rendu à la résistance. Les dialogues que vous avez imaginés jettent une lumière terrible et passionnante, mais ils sont plausibles. Vous avez découvert, Robert Van Inter, que Laval et Bousquet se sont réellement rencontrés en prison.
Oui, ça a été une surprise pour moi. J'ai fait beaucoup de recherches sur le procès Bousquet et je me suis aperçu à ce moment-là que Bousquet avait été la dernière personne à s'entretenir avec Laval avant sa tentative d'empoisonnement et son exécution. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu se dire ? Avec cependant une indication précise, c'est que je sais par expérience que les condamnés à mort ne veulent pas être exécutés. Et dans le cas de Laval, c'est facile de savoir ce qu'il a pu dire à Bousquet. Oui. Tout simplement, vous prenez la longue déclaration de Laval au procès Pétain et vous prenez la déclaration de Laval à son propre procès et vous avez les lignes de défense.
Ce qu'il n'a sans doute pas pu exprimer à ces procès, à ces deux procès, mais que vous mettez dans sa bouche, dans cette pièce, c'est son immense amertume à l'égard de Pétain.
Oui. Pour moi, c'est le fil conducteur. C'est la haine, le terme n'est pas trop fort, de Laval à l'encontre de Pétain, et je pense réciproquement. Ouais.
Alors que, en face, Bousquet est un admirateur du maréchal Pétain. Et d'ailleurs, Laval s'adresse à Bousquet dans votre pièce, dans les dialogues que vous avez imaginés. Dites-moi, Bousquet, pourquoi avez-vous aimé Pétain ?
Et Bousquet répond comme tous les Français.
Oui.
Je l'ai aimé parce qu'il symbolisait la gloire de jadis, parce qu'il apparaissait comme un protecteur possible. Vous savez, c'est extraordinaire de penser qu'il y a eu deux grands, je dirais, des espoirs de la préfectorale française, et que c'était d'un côté Jean Moulin, dont on connaît la destinée héroïque et tragique, et de l'autre côté, Bousquet.
Laval-Bousquet, deux ambitieux, un politique, un fonctionnaire, mais deux grandes ambitions.
Oui, quelque chose quand même qui est apporté au crédit de Laval, c'est que Laval, il a fait une carrière extraordinaire politique. Laval, c'est quand même le fils du petit aubergiste auvergnat.
De Châteldon.
Oui, Châteldon. Il disait toujours dans les meetings et tout le temps, je suis un enfant du peuple, moi. Et c'est vrai. Mais il a quand même été, sous la Troisième République, 13 fois ministre et 3 fois président du Conseil. C'est dire l'ascension prodigieuse de Laval. Il en tirait à la fois un avantage dans les meetings. Ah, je suis un fils du peuple, mais aussi, ça témoignait de ce qu'il appartenait à l'élite républicaine. Et il s'était fait lui-même.
Et il s'est dévoyé auprès de Pétain, mais il se défend. Évidemment, le sort des Juifs est au cœur des discussions entre Laval et Bousquet. Laval se défend avec le système de défense qu'on lui connaît. J'ai laissé les Juifs étrangers pour protéger les Juifs français. Mais ce qui est vrai, c'est qu'entre Pétain et Laval, l'antisémite, c'est Pétain. Sauf que le maréchal a eu la prudence de ne jamais faire de propos publics dans ce sens, Robert Badinter.
Oui, Pétain était, par son milieu d'origine, l'armée, la carrière militaire, évidemment, disons-le, antisémite. Il a rajouté d'ailleurs des interdictions aux Juifs, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Mais Laval, lui, s'en fichait. Ça ne l'intéressait pas. Bon, ça intéressait les nazis au premier chef, et il a pris des décisions qui étaient conformes à la volonté de ceux qu'il considérait comme les vainqueurs certains et les alliés potentiels. Donc, que Laval soit, je le dirais brutalement, un salaud et une canaille politique, je le crois volontiers, lui prêter un antisémitisme couleur de sang et de cendre aujourd'hui, c'est aller trop loin dans la vérité historique. Mais qu'il ait livré les Juifs étrangers, qu'il ait surtout, ce qui est un crime épouvantable, livré des enfants aux nazis, pour être déportés après que leurs parents l'aient été. Ça, c'est le crime contre l'humanité impardonnable. Il ne se rendait pas compte où il feignait de ne pas s'en rendre compte, parce qu'il y a eu ce propos extraordinaire. Il a dit deux fois, en public, quand il a comparu au moment du procès Pétain comme témoin, et ensuite, quand il a comparu comme accusé, deux fois il a dit « Je voudrais n'être jugé que par des Israélites français, car ils savent tout ce qu'ils me doivent. » Je mesure l'inconscience, l'audace du personnage.
Et puis vous ne vous remettez pas de l'acquittement de René Bousquet. Scandale non, judiciaire.
Oui, c'est un scandale judiciaire. Bon, c'est Laval n'est pas à l'avantage de la justice française.
Mais dans l'autre
mais
sens.
Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Bousquet, et qui m'a toujours, toujours, toujours captivé. Bousquet était le chef de la police de Vichy. Bousquet, on le sait, a été un des hommes qui ont le plus de responsabilités dans le génocide des Juifs de France, dans la livraison aux nazis des Juifs. Eh bien, Bousquet est arrêté par la CIA au moment même où les armées américaines arrivent en Bavière, interrogé pendant 2 jours. Et puis la CIA, on le sait, lui a proposé de partir en Amérique sous une nouvelle identité, de refaire sa vie. Il a dit non, je veux rentrer en France. Il a été livré aux Français, ramené immédiatement à Paris. 3 ans après, il est jugé.
Tard.
Par la cour de justice.
En 49, oui.
Composé de parlementaires résistants. Bousquet est acquitté. Et non seulement acquitté, intelligence avec l'ennemi, mais en plus, Bousquet est relevé de l'indignité nationale au motif des services qu'il a rendus à la résistance. C'est-à-dire qu'il est le seul de son espèce, à ma connaissance, qui soit sorti de la cour de justice avec un brevet de résistant. Alors après ça, il pouvait se montrer dans Paris.
Il s'est montré dans Paris.
Il s'est beaucoup montré dans Paris. Pas seulement dans Paris.
Il a eu une carrière dans le privé, il avait pignon sur rue, etc. Cet acquittement de la haute cour, c'était l'un des arguments de François Mitterrand pour justifier de ses liens avec Bousquet quand cette amitié-là a été révélée.
Mais, encore une fois, il est le seul à pouvoir dire « Mais voilà la règle. » C'est pas seulement acquitté au bénéfice du doute, c'est « Nous vous relevons l'indignité nationale, nous, haute cour, pour les services rendus à la résistance. » Alors, pourquoi? Comment? Ça, j'ai cherché partout.
Et comment expliquez-vous, Robert Badinter, j'imagine que vous êtes posé la question, qu'il ait fallu 30 ans pour que son rôle soit mis en lumière, révélé avec l'importance que vous venez de souligner?
Mais réfléchissez-y. Vous avez raison de dire 30 ans.
30 ans, 78.
Mais qui l'a dénoncé?
D'Arquette Pellepoix.
Qui l'a dénoncé? D'Arquette Pellepoix. Oui. C'est-à-dire un antisémite forcené commissaire, deuxième commissaire aux questions juives, mais un antisémite forcené dans une interview qu'il a donnée...
À l'Express.
Oui, à Dorogy, à l'Express. Donc c'est uniquement grâce à ça qu'on a d'un seul coup déchiré, si je puis dire, le masque et le voile qui entourait l'affaire Bousquet. C'est dire qu'il y a un mystère. Moi, j'aurais tant voulu trouver qui pouvait être responsable de cet acquittement.
Et pour ce qui est de François Mitterrand, je l'évoquais, c'est une affaire privée entre Mitterrand et vous, Robert Badinter.
Il y a, je tiens à le dire très simplement, moi, je n'ai jamais vu Bousquet de ma vie. Je sais que Bousquet et Mitterrand ne se connaissait pas à Vichy. Après, il a été en prison. Donc, le Bousquet qu'a fréquenté Mitterrand, c'est le Bousquet avec le certificat de résistance de la haute cour. On en revient toujours à ça. Pourquoi? Comment? Qui? Et moi, je ne le sais pas. Alors, le reste...
Merci infiniment, Robert Badinter. Merci de nous avoir reçus.
Merci d'être venu.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Pièce publiée dans le recueil Théâtre 1 chez Fayard. Robert Badinter, avec qui nous avons poursuivi la conversation à quelques mois du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Une deuxième partie d'entretien qu'on retrouvera lundi dans Europe Midi. Je vous souhaite un bon week-end et dans un instant, le 13h de Marguerite Lefebvre.